Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui consacrée à la réédition d'un ouvrage d'Olivier Clément, écrivain et théologien orthodoxe, mort en 2009. Pour parler de ce livre, Le visage intérieur, réédité en 2017, nous recevons Franck Damour, professeur d'histoire, un vrai connaisseur de l'œuvre d'Olivier Clément dont il a édité plusieurs textes. Franck Damour, quelques mots sur l'origine de ce livre et sa place surtout dans l'œuvre de Clément.
Oui, c'est un livre assez singulier. Vous avez qualifié Olivier Clément d'écrivain, je crois que c'est vraiment le terme le plus adéquat. Et en fait, il a écrit beaucoup, il a produit beaucoup d'écrits de circonstances. Donc beaucoup de ses livres sont des recueils d'articles qui ont été écrits de façon un petit peu dispersée, mais avec une thématique, une vision en tout cas théologique qui en assure l'unité. Le visage intérieur, qui aura bientôt 40 ans, il date de 1978, se distingue des autres recueils parce qu'il a une unité thématique. Ça pourrait presque être, sous forme un petit peu d'humour, je dirais, une sorte de livre de théologie systématique, comme on peut en trouver dans les écoles de théologie en Occident, autour d'un thème. Sauf que le thème dont il s'agit est un thème qui, justement, ne peut pas être systématisé, c'est-à-dire le visage. Et donc, c'est un ouvrage très resserré et très singulier, et je serais presque tenté de dire assez central dans son œuvre, parce qu'au fond, il défend ce qui est sans doute le cœur de sa vision du christianisme, comme étant la religion du visage. Ce qui explique sans doute que ce livre est souvent été un petit peu le livre de chevet. Beaucoup de personnes me disent qu'ils l'ont gardé longtemps avec eux, mis dans leur sac, emporté en voyage. Et c'est ce qui nous a donné avec Monique Clément l'idée de le rééditer, tout simplement.
C'est un livre donc paru pour la première fois en 1978 chez Stock et maintenant c'est chez Salvator. Quelle est sa particularité? Bon, c'est le visage, on le voit. Peut-être est-il influencé par la théologie orthodoxe, le prosopone à l'origine. Il y a une base théologique, si vous voulez, au fond, mais qu'il développe avec la liberté qui était la sienne et la fécondité aussi, qui est absolument extraordinaire. Le centre, c'est le visage, mais comment place-t-il ça, si vous voulez, d'une manière générale, dans son œuvre également, mais également d'une manière générale dans la perspective théologique?
En fait, c'est, pour Olivier Clément, sans doute le point de départ. Ce livre a été écrit, publié et écrit à peu près 3 ans après L'autre soleil, qui est son autobiographie spirituelle, qui est un ouvrage de la maturité. Il a 50 ans passés et à ce moment-là, il fait une sorte de retour un petit peu sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il y trouve? Quel est le fil conducteur qu'il trouve qui a orienté tout son parcours? C'est le visage, la question du visage. Je veux juste citer 2 ou 3 passages de L'autre soleil. Visage. D'où viennent-ils? Chair pénétrée parfois d'une lumière qui n'est pas celle du soleil. Déchirure dans la prison indéfinie du monde. Vers quel secret? Voilà, c'est à partir de cette expérience du visage que tout un chacun peut faire, que, au fond, la question fondamentale a surgi. Pourquoi des visages si tout vient du néant pour y retourner? Et le christianisme a été la réponse à cette question-là, qui est la réponse, je dirais, matricielle de son engagement en tant que penseur, qu'intellectuel, qu'historien, que théologien, mais aussi tout simplement en tant qu'homme. Car il me semble qu'il explique dans sa préface que les textes de ce livre ont été écrits sur une période d'une année. Et on sent bien qu'il y a une véritable unité, quelquefois, la diversité des thématiques, parce qu'il nous parle de Dostoïevski, de Séraphin de Sarov, de l'icône, de l'expérience du silence. Et au fond, tout cela, on sent qu'il y a une sorte de point un peu focal qui a été porté, j'imagine, ou en tout cas on le devine, aussi dans sa vie intérieure au cours de cette année de cheminement. Parce que, voilà, il a entre 50 et 55 ans, comme il avait expliqué à Jacques Chancel dans une émission Radioscopie qui avait été tournée, réalisée à la suite de la publication L'autre soleil. Il dit que voilà, 50 ans, c'est l'âge d'un autre départ, je le cite, d'un autre commencement. Entre 40 et 50 ans, quelque chose se joue. On s'enferme dans son personnage, ou alors on redécouvre une vérité profonde. J'ai retrouvé mon enfance en écrivant ce livre comme un poème. Elle a été bien perdue. Devenir adulte, c'est adultérer. On adultère l'enfant que l'on a été. Alors que j'ai toujours pensé que le jugement de Dieu était un regard d'enfant sur ma vie. Et en fait, à travers ce retour-là qu'Olivier Clément vient de décrire, il a découvert que le Dieu qui l'a amené à la vie ou qui l'a rencontré, c'est avant tout le Dieu visage. Donc c'est véritablement ce point de départ d'ordre existentiel, hein, qui est vraiment la source de cet ouvrage, de ce recueil, une expérience du visage que, comme je le disais tout à l'heure, n'importe qui a fait à un moment ou à un autre de sa vie. Hein, le visage de l'enfant, le visage du vieillard, d'un ami, lorsque on ne voit plus l'autre pour ce qu'il est censé représenter, lorsqu'on n'est plus capable de dire quelle est la couleur de ses yeux, quelle est la forme exacte de son visage, mais lorsqu'on le voit tel qu'il est, voilà, c'est ça le point de départ de ce livre qui peut être considéré un petit peu comme une sorte de cœur. J'aime bien l'associer avec l'autre soleil, ces deux-là donnent véritablement les clés de tout le travail d'écriture d'Olivier Clément et de témoignage d'Olivier Clément.
On passe à une conception vraiment ontologique du visage. Il fait de ça quelque chose d'existentiel. Alors, comment fait-il pour justement donner cette dimension qui est fondamentale?
Parce qu'en fait, le visage pour lui est un mystère. Il le décrit comme cela. C'est quelque chose qui est absolument impossible à décomposer. Dès qu'on le décompose, on n'est plus dans le visage. Le visage est un seuil. Il se trouve entre les deux mondes. Vers l'autre monde et le monde ici, vers Dieu et vers l'homme, c'est un point d'articulation et un point de révélation. Et un point de révélation universel. Dire qu'il n'y a pas besoin encore de l'expliquer à travers ou de le comprendre, de le nommer à travers le visage du Christ ou avec des propos théologiques. C'est d'abord à travers simplement l'expérience anthropologique que chacun peut faire. D'ailleurs, le premier texte concerne cette expérience anthropologique. Alors, c'est vrai que ces passages font penser souvent un petit peu à Emmanuel Lévinas. Mais ce qui est intéressant, c'est là où cela va se distinguer du cheminement d'Emmanuel Lévinas. Je voudrais juste lire, si vous le permettez, une page donc de ce mystère du visage, qui est le chapitre un peu introductif. « Tout visage, si usé soit-il, est presque détruit. » Pour peu que nous l'entrevoyons avec le regard du cœur, se révèle unique, inimitable, échappe à la répétition. On peut analyser ses composantes, démonter froidement ou cruellement leur assemblage, le ramener ainsi au monde des objets qu'on explique, c'est-à-dire qu'on possède. Regardez sur fond de nuit, de néant, le visage est un archipel inhabité, une caricature disqualifiante. Regardez du côté du soleil, le visage révèle un autre quelqu'un. Une réalité qu'on ne peut décomposer, classer, comprendre, car elle est toujours au-delà, étrangement absente quand on veut la saisir, mais qui rayonne de son au-delà même quand on accepte de s'ouvrir à elle, de lui donner sa foi, comme dit admirablement la vieille langue. Le visage se refuse à la possession, non par une impossibilité matérielle, mais parce que sa manifestation même, toujours imprévisible, serait-ce par un détail minuscule, défie la prévision. On voit ici qu'il y a véritablement une expérience à la fois anthropologique et théologique qui se vit à travers le fait de voir, d'envisager véritablement l'autre qui est absolument irréductible à tout désir de possession. Alors, quelques années plus tôt, Emmanuel Lévinas avait longuement développé ça, mais en s'appuyant sur des sources un petit peu différentes. C'est ce qui est intéressant, c'est de comparer peut-être la démarche de ces deux penseurs, qui sont à la fois des théologiens, je ne sais pas si le terme conviendrait tout à fait pour Lévinas, il n'en aurait pas accepté, mais en tout cas des écrivains, voilà, allant au-delà simplement des catégories, on va dire, académiques. C'est que Emmanuel Lévinas se situe bien sûr dans une tradition biblique d'attestation d'une transcendance, d'un tout autre. Et du coup, le visage, il y accède de façon, je dirais, assez apophatique. C'est un petit peu par l'énigme du visage qu'on ne peut jamais réduire. Olivier Clément reprend cela, mais il y a d'autres sources en lui. La source qui est un peu propre au génie du christianisme, selon lui, de cette religion du visage, parce que, justement, à travers les pères de l'Église, qu'il cite longuement, il y a cette pensée, cette découverte de Dieu à travers le visage. Parce que, pour le christianisme, Dieu s'est fait visage, justement. Et donc, on voit bien la différence entre les deux, qui sont complémentaires, qui n'opposent pas, entre ces deux approches, et qui sont, ma foi, proposées aujourd'hui aux hommes de notre temps.
Merci beaucoup. Je voudrais aussi un commentaire, si vous voulez, sur l'organisation de ce livre. Bon, il y a un chapitre très théologique, je dirais, « Silence et paroles de Dieu », mais il y a aussi des thèmes très familiers, toujours à Clément Saint-Séraphin de Sarov, par exemple, prophète et témoin de la lumière, littérature et foi, cette facilité qu'il a de voyager dans la littérature tout en restant un écrivain orthodoxe et surtout chrétien avant, mais orthodoxe bien sûr, Dostoïevski, La beauté du monde, des thèmes qui sont très chers à Clément. Alors, quelle est l'organisation de cet ouvrage ?
Il part d'abord donc de l'expérience anthropologique que j'ai décrite. Ensuite, le second chapitre est un peu le chapitre qui donne toutes les clés théologiques hein, autour du Dieu visage, qui est sans doute le chapitre central en fait, hein, qui développe cette thèse du christianisme comme la religion des visages ou du visage. Et ensuite, le reste du recueil décline cela à travers des figures mystiques, hein, celle de Séraphin de Sarov, des figures poétiques ou d'écrivains hein, de Dostoïevski. Aussi, il y a aussi deux trois textes sur l'expérience de l'écriture, notamment l'expérience de l'écriture poétique, que tout le monde peut lire, même si on n'écrit pas de poèmes ni de romans comme Dostoïevski, parce que à travers ce que ces artistes spirituels ont découvert, ont exploré, on retrouve en miroir beaucoup de choses que l'on peut vivre hein, à travers sa vie ou à travers son métier. Et je voudrais peut-être revenir sur ce second chapitre qui me semble tout à fait essentiel, parce que il part de la crise iconoclaste. Voilà, c'est le chapitre s'ouvre comme ça. Il y a eu une contestation hein, de l'icône. Il interprète cette contestation comme étant une sorte de d'attestation, de désir d'attester un transcendant, un tout autre, une volonté de dégriser les idoles. Hein, et je trouve qu'aujourd'hui, nous vivons pleinement ce temps. Il y a véritablement du côté des religions au sens large du terme, un peu ce désir de détruire les idoles que le monde moderne, produit à foison. Et donc, pour Olivier Clément, cette contestation iconoclaste, c'est un travail préparatoire. Elle est préparatoire, je dirais qu'en creux, d'une certaine façon un peu paradoxale, elle préfigure ou elle annonce, par ce travail de destruction des idoles, eh ben, la découverte et la compréhension de l'icône. Ensuite, il reprend la façon dont les théologiens ont essayé de donner un sens, une légitimité à l'icône. Et il le fait, encore une fois, avec son style et en faisant toujours ce parallèle entre l'icône et le visage. Parce que, en fait, ce qu'il y a de propre dans le christianisme, c'est le fait d'avoir proposé un visage comme lieu de la révélation. C'est-à-dire que ce visage-là, le visage du Christ, est invisible qui rend compte, qui témoigne de l'invisible hein, et qui fonctionne un petit peu comme une frontière. Il cite une phrase de Berdiaev, qu'il cite assez souvent d'ailleurs dans ses écrits, c'est pas les termes exacts, mais l'idée est la suivante, c'est parce que Dieu s'est fait visage que l'homme peut voir le sien. C'est parce que Dieu s'est fait visage, a pris le visage du Christ, que du coup nous pouvons apprendre, réapprendre à voir le visage, notre visage. Et l'icône, pour Olivier Clément, est d'abord cela, c'est-à-dire l'occasion de découvrir, de connaître une école de la vision, une école du regard, plutôt que de la vision, une école du regard et de la réception du visage.
Après cet extrait de la liturgie orthodoxe par l'ensemble Harmonie géorgienne sous la direction de Lana Peradze, nous revenons à notre entretien avec Franck Damour sur un livre d'Olivier Clément, Théologien orthodoxe, Le visage intérieur, paru ou plutôt réédité chez Salvator en 2017. Et Franck, vous parliez du fait qu'il part de l'iconoclasme, vous parlez du visage, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il parle quelque part de l'icône comme vérité du visage. C'est dit dans le livre, et on voit bien comment il a ce talent toujours de partir d'une réflexion purement théologique et technique, je dirais orthodoxe. Il part de Jean Damascène, et il s'ouvre énormément après, et c'est quelqu'un qui sait parler aux hommes de son époque, et je crois qu'il reste actuel. Vous avez peut-être un extrait nous lire.
Justement, c'est sur cette vérité du visage qui montre bien la façon dont très simplement Et très profondément, il arrive à décrire ce qui se passe lorsque l'on regarde l'icône et lorsqu'on se laisse regarder par l'icône et que du coup, on apprend à regarder. L'icône nous offre la vérité du visage, celle que nous pressentons en voyant dormir un enfant, dans les moments d'intense et silencieuse confiance de l'amitié ou de l'amour, dans cette paix aussi dont nous avons parlé et qui scelle parfois la face d'un mort. Ce qui frappe d'abord, c'est l'espace des yeux qui ouvre le visage vers l'intérieur. Non seulement les yeux sont immenses, mais les arcades sourcilières, dilatées, les enveloppent comme des voûtes absidiales. Deux rides lumineuses, véritables ondes d'au-delà, doublent sur le front la ligne des sourcils. Au-dessous des yeux, le même creusement, sombre d'abord, puis lumineux. Le regard est pénétré de cette douloureuse joie, de cette bienheureuse tristesse dont parlent les spirituels. L'âme traversée de lumière, mêlée d'une sorte de sourire, quand la mémoire de la mort s'inverse en mémoire de Dieu. Voilà, là on trouve vraiment le talent de l'écrivain, hein, Olivier Clément, qui se voulait ou qui a essayé aussi d'être poète. D'ailleurs, le recueil, de façon cyclique, se termine hein, par quelques poèmes d'Olivier Clément. Mais il me semble que là où sa poésie s'exprime le mieux, c'est lorsque, au cœur d'une phrase, d'un seul coup, hein, comme lorsqu'il parle de ses rides, deux rides lumineuses, véritables ondes d'au-delà, voilà, d'un seul coup, il montre bien comment on peut basculer vers l'au-delà, comment le visage, en l'occurrence, véritablement est un lieu frontière. Et s'il est lieu frontière, c'est parce que l'icône, en fait, reprend la révélation du visage du Christ. Le visage du Christ qui est un visage paradoxal, puisque, en fait, il insiste beaucoup dans son livre sur cet aspect. Le visage de Dieu s'est fait non-visage, puisque le visage du Christ est le visage de l'esclave. Donc, vous connaissez ça mieux que moi, mais à prosopos, c'est-à-dire celui qui n'a pas de visage. Et donc, on est véritablement là dans un paradoxe qui est celui de l'incarnation, tout simplement, mais qui nous touche profondément, parce que ce paradoxe-là permet un renversement, et tout ce qui relève de la destruction du visage, peut devenir à ce moment-là résurrection. C'est la mémoire de la mort qui se retourne véritablement et qui devient mémoire de la vie, ou mémoire de la vie ressuscitée. Il y a de très beaux articles sur Séraphin de Sarov qui sont entièrement autour de cette question du retournement. Hein, comment est-ce que cette transfiguration a pu être vécue dès ici-bas? Parce que après ces 20 ou 30 ans d'expérience d'ascèse profonde, à se retirer dans ce désert russe qu'est la forêt, il a pu véritablement retourner la mort en résurrection. Et ce qui lui a permis après d'accueillir, retrouver la parole. Enfin voilà, l'histoire de Séraphin est tout à fait fascinante parce que c'est quelqu'un qui avait véritablement perdu le visage jusqu'à être frappé par des bandits hein, dans un épisode fameux de sa vie et être brisé et qui après retrouvait et devenait un visage autre qui a pu traverser toutes les épreuves de la mort et qui, du coup, a pu dégager une lumière qui, auparavant, était absolument invisible. On est vraiment dans ce basculement. Et c'est vrai que, pour rendre compte de ce basculement, l'écriture d'Olivier Clément, qu'il a trempé dans son propre retournement spirituel, hein, sa propre trajectoire de conversion, est quelque chose d'assez unique, peut-être, hein, en tout cas très précieuse pour nous.
Merci beaucoup et aussi pour cet éclairage sur la manière d'interpréter le mot prosopone. Évidemment que la théologie, je dirais, classique, hein, interprétée comme personne, hein, c'est le même mot. C'est pourquoi il donne une référence et un sens existentiel au mot visage, qui était un autre sens du mot prosopone, évidemment, à l'origine. Alors, les quelques minutes qui nous restent, peut-être, je voudrais quelques mots sur les trois poèmes. Vous venez de citer ça, il y a trois poèmes à la fin qui sont dus à Clément, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il a choisi lui-même de les mettre à la fin de ce recueil? Est-ce que c'est l'éditeur et...
Non, c'est un choix. Alors, en fait, je trouve que c'est assez révélateur parce que c'est... au fond, ce livre est un peu le jumeau de L'autre soleil, son autobiographie spirituelle. Dans L'autre soleil, la démarche est la suivante. Il part de son expérience, de sa vie, raconte son enfance, son adolescence, sa jeunesse, sa trajectoire de conversion jusqu'au baptême, qui est le seuil liminaire du livre. Et donc, on part de sa propre vie pour atteindre quelque chose d'universel. Et ici, il part de quelque chose d'universel, l'expérience du visage, l'annonce d'une religion du visage qui est le christianisme, et il termine par sa propre voix. C'est véritablement quelque chose de profondément intime. Hein. C'est l'écriture de la poésie, je pense, l'a accompagné tout au long de sa vie, même s'il n'a pas toujours publié ou rendu public, il était assez pudique à l'égard de cette écriture-là. Elle est intimement liée à une expérience spirituelle. Et d'ailleurs, il y a un court texte qui est au centre de ce recueil, qui décrit l'expérience, enfin l'écriture poétique ou l'élaboration poétique comme expérience spirituelle. Et ce qui est assez fascinant, c'est que en décrivant la façon dont un poète écrit, il montre comment à chaque fois toutes les étapes relèvent d'un combat intérieur, d'un combat spirituel et d'une démarche ascétique pour arriver à la parole ajustée. Hein, que ce soit l'étape initiale, au moment où, je dirais, il y a une vision, un germe, jusqu'à la fin, où on arrive au poème élaboré. Hein, à chaque fois, il y a ce combat, cette lutte, pour pouvoir arriver à envisager véritablement la vérité, à voir l'icône qui se trouve au cœur de toute chose.
Merci beaucoup, Franck, pour cette analyse, présentation du livre, mais également cet éclairage sur la personnalité d'Olivier Clément. Donc, je rappelle que vous avez fait la préface de cet ouvrage d'Olivier Clément intitulé « Le visage intérieur » qui vient d'être réédité chez Salvator. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Jean-Michel Bernot. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.